On est dans le livre des Actes depuis quelques semaines parce qu'on essaye de vivre ou de se rappeler ce que ses disciples ont vécu il y a un peu plus de 2000 ans, donc dans cette période maintenant bien particulière entre l'Ascension et puis la Pentecôte. Voilà. Pour beaucoup, c'est un week-end prolongé de vacances où on se repose, on en profite. Et c'est toujours une bonne chose de pouvoir se reposer. Mais pour les disciples, eh bien, on va lire un petit peu ce récit. Et j'ai intitulé ce moment une parenthèse de 10 jours. Une parenthèse de 10 jours. Voilà. Et on va voir un petit peu ce qui va se passer dans ces 10 jours assez quand même particuliers et uniques, en tout cas, dans la vie des disciples. Alors, on lit dans Actes 1, verset 9. Après avoir dit cela, hein, c'est Jésus qui parle, il s'éleva dans les airs, on est bien dans ce qu'on appelait maintenant l'ascension, pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alors ils tournèrent à Jérusalem, de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. À cette époque-là, Pierre se leva au milieu des disciples. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Il dit, « Mes frères, il fallait que s'accomplisse l'Écriture, ce que le Saint-Esprit avait annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, devenu le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Il était l'un des nôtres, et il avait part au même ministère. Cet homme a acheté un champ avec le salaire du crime. Il y est tombé en allant, s'est éventré et toutes ses entrailles sont sorties. Tous les habitants de Jérusalem l'ont appris. C'est pourquoi ce chant a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire le chant du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa maison devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc choisir un homme parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il nous sera associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. « Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux hommes tu as choisi pour prendre part à ce ministère et à cette charge d'apôtre que Judas a abandonné pour aller à la place qui est la sienne. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Voilà en quelques lignes ce que nous rapporte Luc concernant une période particulière de dix jours, entre l'Ascension et la Pentecôte. C'est une période qui fait suite à une autre période. Hein, on avait appelé cette période une quarantaine avec Jésus. Où pendant 40 jours, eh bien, Jésus va prendre encore soin de ses disciples, va les enseigner, va se révéler à eux, va les accompagner, etc., parlant du royaume de Dieu et leur donnant encore, eh bien, quelques enseignements supplémentaires. Et on peut imaginer cette période de 40 jours où ils sont dans l'euphorie, ils sont dans cette communion avec le Christ ressuscité. Enfin, c'est quelque chose, bien sûr, qui doit les marquer, les enthousiasmer. Et puis là, brutalement, eh bien, ils vont se retrouver sans Jésus. Ils vont se retrouver 10 jours à attendre une promesse. Alors, 10 jours, nous, on le sait, mais eux ne le savaient pas. Et puis, ça va être 10 jours aussi de test pour leur foi. 10 jours sans Jésus, 10 jours pour attendre une promesse, 10 jours de test pour leur foi. Et c'est donc un changement brutal. C'est une parenthèse, bien sûr, dans leur vie de disciples, hein, que nous, on connaît, bien sûr, avec les Écritures, mais au moment-là, eh bien, c'est quelque chose qui est brutal. Et finalement, c'est un épisode de vie que nous pouvons aussi eh bien, parfois vivre lorsque le ciel nous semble fermé, lorsque nous-mêmes, eh bien, nous attendons un exaucement qui ne vient pas, lorsque nous-mêmes, nous avons l'impression de ne pas progresser, de rester sur place, voire même de reculer dans nos valeurs avec Jésus, dans notre foi. C'est ces moments où finalement, bien, on se retrouve dans une parenthèse de vie comme englué, sans avoir une vision claire de ce qui va se passer. Alors, 10 jours d'abord sans Jésus. 10 jours sans Jésus. À l'annonce de ce titre, peut-être on peut se poser des questions. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vraiment arrivé à ses disciples? Et puis, pourquoi une telle réalité? Pourquoi Jésus va-t-il laisser ses disciples pendant 10 jours sans lui? Jésus est au ciel, est à la droite de Dieu désormais. Le Saint-Esprit n'est pas encore donné. Que vont-ils faire? Comment les disciples vont-ils réagir? Quels sont les enseignements pour nous ce matin que l'on peut tirer lorsque nous passons des moments de questionnement? Lorsque nous-mêmes, eh bien, il y a des remises en question, lorsque parfois même par rapport à certaines vérités spirituelles, on est confondu, on dit « Seigneur, mais est-ce que ta parole est vraiment vraie? Est-ce que ce que tu me dis est vraiment vrai? Parce que j'ai l'impression que comme ses disciples, je vis quelque chose sans toi. » On est face à nos propres choix, face à nos propres décisions. Alors, il y a un principe ici qu'on retrouve, c'est que ses disciples, ils vont s'attacher à obéir aux dernières paroles que Jésus leur a laissées. Même si pour l'instant Jésus n'est plus avec eux physiquement, il est au ciel, eh bien, ils vont quand même s'attacher à obéir aux dernières paroles que Jésus leur a laissées. On va en voir quelques-unes, mais juste avant, ils auraient pu avoir une autre réaction, d'autres réactions. Ils auraient pu, par exemple, se lamenter. Ils auraient pu s'apitoyer sur eux-mêmes. Pourquoi Jésus nous a-t-il laissés? Voire pourquoi Jésus nous a-t-il abandonnés? On se retrouve seul. Et pourtant, on l'a suivi pendant 3 ans, 3 ans et demi, et du jour au lendemain, hop, il s'en va. Et les disciples auraient pu se lamenter, s'apitoyer sur eux-mêmes. Ou alors, ils auraient pu carrément se révolter. Ah, c'est pas juste. On a sacrifié nos emplois, nos vies de famille, on l'a suivi, etc. Et puis là, bien, au moment où notre cœur était renouvelé, notre foi était enthousiasmée par ces 40 jours avec lui, il s'en va, il nous laisse. Et ses disciples auraient pu également se révolter. Alors qu'en est-il? Je le rappelle, eh bien, ils ne vont pas se lamenter, ils ne vont pas se révolter, mais j'oserais dire, tout simplement, obéir aux dernières paroles de Jésus. Quelles sont-elles? Eh bien, Jésus va leur dire ceci, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, et puis d'attendre, bien sûr, la promesse. Alors, que vont-ils faire? Lorsque Jésus part, eh bien, le verset 12 nous dit ceci, tout simplement, ils retournèrent à Jérusalem. Ils retournèrent à Jérusalem. Alors pour nous, c'est anecdotique. Luc le marque, bon, bah, il retourne à Jérusalem, mais faut quand même pas oublier qu'à Jérusalem, il y a une atmosphère quand même qui est particulière. On parle encore de Jésus crucifié, on parle de ce tremblement de terre, on parle de ces morts qui sont ressuscités à ce moment-là. On parle même que certains disent qu'il est ressuscité et qu'il apparaît à des disciples et qu'il continue à enseigner. Les chefs religieux, bien, sont très très mal à l'aise, bien sûr. Et puis, ils sont furieux de ce que son enseignement continue, de ce qu'un imposteur se fasse même passer pour Jésus. En tout cas, c'est ce qu'ils croient, c'est ce qu'ils, bien sûr, propagent. Et puis, nos braves Romains, eux, eh bien, ils sont complètement déstabilisés. Ils savent plus du tout, eh bien, comment gérer cette situation qui enfle, et encore. Et pourtant, eh bien, il y a une loi spirituelle ce matin qui place Jérusalem au centre du plan de Dieu. Tout part de Jérusalem et tout reviendra à Jérusalem. Et ce matin, je ne fais pas de politique, avec tout ce qui peut se passer là aussi, hein, au niveau international, mais simplement spirituellement, c'est une loi de Dieu qui est ainsi. Tout va partir de Jérusalem, la mort de Jésus, sa résurrection, son ascension, et puis son retour. Et tout reviendra à Jérusalem. Et Jérusalem a une place centrale dans le cœur de Dieu, dans le plan de Dieu, que les hommes y croient ou pas, qu'on en veuille à Israël ou pas, peu importe, la question n'est pas là. La question, c'est que dans le plan de Dieu, Jérusalem a une place spéciale. Et à ce moment-là, Jésus va dire à ses disciples, retournez, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Et que vont-ils faire? Eh bien, tout simplement, ils vont obéir, ils vont retourner à Jérusalem. Il y a, pour nous ce matin, là aussi, quand tout semble nous échapper, qu'est-ce qui peut nous aider? Eh bien, nous réfugier, nous rappeler dans l'histoire de la mort de Jésus, de sa résurrection, et puis de son ascension et de son retour. Et quand on prend un peu de temps dans la journée, parce que nous sommes tous comme ses disciples, un jour ou l'autre, comme dans une parenthèse où il nous semble qu'on est englué, qu'il n'y a pas de sortie, de nous remémorer, de nous rappeler, de méditer la mort de Jésus, sa résurrection, son ascension et son retour. Et en méditant ces choses, en les chantant, en y pleurant peut-être dessus, peu importe, l'attitude de nos cœurs, eh bien la foi est renouvelée, nos cœurs sont encouragés, notre foi est fortifiée. Amen. Tout vient de Jérusalem et tout reviendra à Jérusalem. Oh, il y a un vieux chant, je ne sais pas si vous le connaissez pour certains, j'ai pas mis toutes les paroles, mais ce chant nous dit « Redites-moi l'histoire ». Hein, vous connaissez ce beau chant ? Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Alors, quelques paroles de la crèche à la croix. Éveillez ma mémoire, oublieuse parfois, ce glorieux message. Oh, redites-le-moi lorsque je perds courage, lorsque faiblit ma foi. Redites-moi l'histoire. Et voilà pourquoi Jésus leur a dit, retournez, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Et ce matin, là aussi, lorsque nous sommes troublés, lorsque on a l'impression d'être englués dans une parenthèse de notre vie, eh bien, rappelons-nous, mémorons-nous, méditons à nouveau sur ce que Christ nous a accordé à la croix, sur sa résurrection, sur son ascension et sur son retour proche. Le psaume 119, verset 165, je crois que je l'avais envoyé, et on va juste voir. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, il ne leur arrive aucun malheur. Beaucoup de paix pour ceux qui se rappellent la parole de Jésus, son œuvre. Et ce matin, frères et sœurs, chers amis, si vous êtes troublés, eh bien là aussi, rappelez-vous, souvenez-vous, chantez-le, méditez-le, la mort, la résurrection, l'ascension, et le retour de Jésus. Amen. Et cette paix, eh bien, pourra remplir notre cœur. Et puis, ils retournent à Jérusalem, et l'Écriture nous dit, eh bien, ils vont monter dans la chambre haute, ils vont monter à l'étage. Ils ne vont pas n'importe où, c'est un lieu où ils avaient l'habitude de se rassembler. Et là encore, c'est peut-être, bien sûr, un détail, mais monter nous donne l'idée de progresser. De nous élever dans la connaissance de Jésus. Ils ne vont pas au temple, mais ils vont dans cette chambre qu'on appelle une chambre haute, hein, une grande pièce alors sur le toit d'une maison, assez vaste quand même pour contenir 120 personnes, hein, mais il est dit qu'ils vont y monter. Vous savez que dans le livre des psaumes, il y a 15 psaumes, c'est du psaume 120 à 134, on les appelle les psaumes des montées, le psaume des degrés. Hein, ces psaumes étaient soit chantés, médités lorsque les pèlerins allaient à Jérusalem aux grandes fêtes, lorsque on montait également vers le temple, eh bien on chantait, on psalmodiait donc ces psaumes, et ainsi eh bien lorsqu'on montait vers Jérusalem, là encore la parole de Dieu nourrissait les cœurs de ces pèlerins. J'aime également ce texte de Jérémie 31 verset 7. Il y a un contexte là aussi de restauration. Et puis, il est dit ceci donc, « Levez-vous, montons à Sion, à Jérusalem, vers l'Éternel, notre Dieu. » Montons à Sion, vers l'Éternel, notre Dieu. ce matin encore, Dieu nous invite à monter, à nous élever dans sa présence. Alors, on a bien compris, hein, que ce n'est pas par nos forces, par nos mérites, par notre expérience, par les dons que nous le faisons, mais avec beaucoup d'humilité. Mais plus nous sommes humbles, plus nous marchons de cette manière avec le Seigneur, plus nous pourrons nous élever, monter dans sa présence. C'est paradoxal. Celui qui monte vers le Seigneur n'a pas la tête haute, mais au contraire, il le fait avec humilité, mais beaucoup de reconnaissance. Et ce matin, bien, nous voulons aussi nous rappeler de ces paroles de Jésus. Si on vit un moment trouble, eh bien, montons vers l'Éternel. Montons vers Jésus. Montons vers le Seigneur. Approchons-nous du trône de la grâce, dit l'Écriture, afin d'être secourus dans tous nos besoins. Ils retournèrent à Jérusalem, et puis ils montèrent dans la chambre haute. 10 jours sans Jésus, oui, mais, ils vont obéir aux dernières paroles que Jésus leur a laissées. Et si ce matin, peut-être des bien-aimés sont troublés, bien, saisissez une parole de Jésus qu'il vous a donnée, et puis attachez-vous à cette parole, obéissez à cette parole, et vos cœurs seront renouvelés. 10 jours aussi pour attendre la promesse. Parce que Jésus va leur faire une promesse, hein, il leur dit que dans peu de temps, bien, ils seront baptisés du Saint-Esprit. Les disciples, en revenant à Jérusalem, ne vont pas se disperser, ne vont pas se distraire, aller à droite, à gauche, par les circonstances, par l'atmosphère à Jérusalem, hein, mais par le contexte familial. Ça aurait été légitime peut-être de dire, ben, oui, je vais revenir à Jérusalem, mais ça aurait été légitime, mais ici... Finalement, bien, ils vont se concentrer sur un objectif, la promesse de Jésus. La promesse de Jésus. Ils ont 10 jours, alors ça, ils ne le savent pas. Hein. Ils ont juste une information, ils n'ont ça que comme information. Jésus leur a dit « dans peu de jours ». Dans peu de jours. Hein. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous, dans peu de jours. Ça peut être 1 jour, 2 jours, 3 jours, 10 jours, 30 jours, etc. Mais dans peu de jours, ça dépend. Mais ils n'ont que cette information. Mais ça leur suffit. Ça leur suffit. Ils ne savent même pas comment le Saint-Esprit va se manifester. Ils n'ont aucune idée. La seule info qu'ils ont, c'est dans peu de jours. Dans peu de jours. Alors, eh bien, ces disciples, là aussi, vont obéir à cette parole. Et puis, ils vont se rassembler. Juste avant de partager de quelle manière, nous aussi, on peut attendre des promesses que Dieu nous fait. Il y a deux sortes de promesses que Dieu peut nous faire. Il y a des promesses qui sont inconditionnelles, c'est-à-dire qui ne dépendent pas de nous. Par exemple, le retour de Jésus, bien, Jésus a fait cette promesse, hein, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Et que le monde n'y croit pas, que le monde s'oppose, entre guillemets, que le diable s'oppose, et ça on le sait, Jésus reviendra. On le sait, c'est un fait. Par contre, il y a des promesses aussi qui sont conditionnelles. C'est-à-dire qui dépendent aussi quelque part de nous. Hein, l'exemple, c'est la promesse de la vie éternelle. Elle n'est pas donnée à tout le monde. Non, nous n'irons pas tous au paradis. C'est peut-être chanté, c'est peut-être véhiculé comme idée, même parfois dans certains milieux évangéliques, Dieu est tellement amour, Dieu nous aime tellement que de toute façon, quoi qu'il soit passé ici-bas, il nous acceptera là-haut. Non, la Bible nous dit que la promesse de la vie éternelle, elle est conditionnée à notre repentance et à notre foi. À ceux qui croient en Jésus et qui le suivent désormais, oui, mais c'est une promesse bien sûr qui est conditionnée. En tout cas, ce matin, il y a peut-être des promesses certainement beaucoup plus personnelles que Dieu vous a données, que Dieu vous a faites et qui pour l'instant ne sont pas encore accomplies. Peut-être des paroles pour votre famille, des paroles de guérison, pour une orientation professionnelle, pour une direction familiale, je ne sais pas. Il y a ces promesses, il y a ces promesses. Comment les attendre? Comment attendre ces promesses? Comment les disciples ont-ils attendu, eh bien, les promesses de Jésus? Comment pendant 10 jours ils vont attendre? Ils vont attendre. Eh bien, il y a 3 grandes lignes. Il nous a dit qu'ils vont attendre dans la persévérance, dans la communion fraternelle et puis dans les prières. Dans les prières. Hein, le texte nous dit ceci. Eh bien, tous persévéraient, c'est le verset 14, d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. La persévérance. Il y a un mot qui est à la mode depuis quelques années maintenant, c'est le mot « résilience ». On entend souvent parler de résilience. Et c'est vrai que c'est une valeur, on va dire, à connaître, à exercer. En physique, la résilience, c'est la valeur, c'est une valeur qui caractérise la résistance au choc d'un métal. Voilà, vous mettez un indice et quelque chose. Et puis en psychologie, c'est à peu près la même chose, c'est la capacité à surmonter les chocs traumatiques. Voilà, c'est ça la résilience. C'est malgré ce que l'on vit, malgré les douleurs, eh bien, on rebondit, on va de l'avant, on ne se laisse pas impressionner. La Bible nous dit dans Éphésiens 6:13, quelque chose d'important, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. » Oui, mais après quoi? Après avoir encore tout surmonté. Ça, c'est la résilience. C'est la persévérance. De tenir ferme après avoir tout surmonté. Les promesses de Dieu, ce matin, sont associées à la persévérance. Non pas pour mériter quoi que ce soit. « Ah Seigneur, tu vois, j'ai quand même persévéré, je mérite. Je suis résilient, je mérite. » Non, la persévérance va simplement forger notre foi, nous fortifier, muscler notre foi. C'est comme si vous voulez, je ne sais pas moi, faire le Tour de France, c'est bientôt le Tour de France. À mon avis, c'est trop tard pour vous mettre au vélo. Il fallait le faire beaucoup plus en avant. Voilà. Si vous voulez faire le Tour de France 2026, commencez à vous entraîner dès maintenant, à mon avis. Prenez un bon préparateur physique et vous allez voir qu'au début, ça va faire mal. Ça va piquer dans les muscles, etc. Mais peut-être que, on ne sait jamais, des fois, il y a des talents qui se révèlent, mais vous allez avoir besoin de persévérance, de vous accrocher, de faire du vélo. Et j'entends un amen, un alléluia, bien connaisseur de Serge, qui sait ce que c'est de faire du vélo, voilà, par tous les temps, etc., qu'il neige, qu'il pleuve. Ouais, la persévérance. Mon frère, ma sœur, si ce matin le Seigneur vous a fait une promesse personnelle, eh bien, attends-la avec persévérance dans la foi. Amen. Sois résilient. Parce que Dieu n'est pas un Dieu pour mentir, sa parole est toujours vérité. La communion fraternelle. Il persévère dans la communion fraternelle. Chacun n'est pas chez soi dans son coin, en disant, de toute façon, Dieu nous a fait une promesse, alors on va attendre comme ça, puis on verra bien. Mais il y a ce mot très fort d'un commun accord. D'un commun accord. Vous connaissez l'expression « accorder ses violons » Accorder ses violons. Bon, on joue pas du violon ce matin. On aimerait bien prions pour qu'on ait des cordes aussi. C'est bon, un beau violon, un beau saxo aussi. Voilà, donc c'est des sujets de prière pour l'Église. Mais ce que je veux dire, eh bien, c'est que ici, il y a une unité d'esprit chez les disciples qui va leur permettre cette unité d'esprit d'attendre ensemble dans un objectif qui est commun. Alors on le sait, on le dit. Unité, ça ne veut pas dire uniformité. Mais tout simplement, on est tous différents, ce matin, on le voit bien, on le sait bien. Bien entendu, on est autonome, mais on n'est pas indépendant. Nous sommes liés les uns aux autres. Et d'ailleurs, il y a un beau texte, c'est dans Éphésiens, au chapitre 1er, versets 4 à 6. « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde » pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Alors, c'est peut-être pas celui-là, là je me suis trompé, c'est peut-être Éphésiens 2. Attends, je vérifie vite fait, qui nous parle de l'unité de la foi. Alors, Éphésiens 4, oh là là, où j'étais le jour-là quand j'ai médité. C'est Éphésiens 4. Voilà, merci. J'ai dû inverser, je pense. Je ne sais pas comment c'est. Éphésiens 4. Et puis, c'est le verset, on peut lire juste Éphésiens 4. Voilà, Éphésiens 4, 4, 6, c'est ça. Merci. Éphésiens 4, 4, 6 nous parle justement de cette unité. Voilà, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, il y a un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Et puis si on peut voir la suite, il y a un seul Seigneur, il y a une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. La communion fraternelle ce matin, eh bien, nous permet de nous unir, de nous accorder dans des objectifs que Dieu nous donne, afin qu'ensemble, eh bien, nous puissions attendre les promesses avec sérénité, avec calme, avec confiance. Et puis, le dernier élément, il est question de la prière. Malgré la promesse qui va s'accomplir, eh bien, ils l'attendent, ils ne l'attendent pas les bras croisés, mais j'ai mis plutôt les mains jointes dans la prière. Pour dire, Seigneur, oh, ben c'est bon, hein, tu m'as fait une promesse, ben, écoute, de toute façon, j'attends, mais il y a un autre état d'esprit. Ils l'attendent dans la prière, et ils persévèrent les uns avec les autres, et leur foi dans ces moments de prière va être nourrie dans une attente qui va être sereine et paisible. Ils ne sont pas agités, ne sont pas troublés, ils attendent la promesse dans la prière. Amen. Voilà comment ce matin également, nous pouvons, nous aussi, eh bien, attendre des promesses que Dieu nous fait. Et puis, je termine, 10 jours sans Jésus, 10 jours en attendant la promesse, et puis 10 jours de test. 10 jours de test. Pourquoi 10 jours de test? Certains associent le nombre 10 en se référant aux 10 commandements à la responsabilité de l'homme face à la parole de Dieu. Ses choix, sa volonté, ses décisions. Chacun d'entre nous, eh bien, nous sommes libres devant la parole de Dieu de la méditer, de la consulter et puis de l'appliquer ou non. Nous n'avons pas un ange chaque jour à nos côtés qui nous dit eh bien, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, et puis je vais te montrer ton planning de la journée. Nous avons les directives de la parole de Dieu, mais chacun, et Dieu l'a voulu ainsi, a été créé libre. De choisir, libre d'agir en pleine conscience. Et c'est vraiment 10 jours de test pour ses disciples, parce que Jésus n'est plus là pour leur dire, eh bien voilà le planning de la journée, le Saint-Esprit n'a pas été encore donné, alors eh bien, il se retrouve un petit peu face à une gestion personnelle. Il va falloir qu'ils gèrent eux-mêmes cette situation. Et comment vont-ils la gérer? Ou l'exemple de Pierre va nous aider à mieux comprendre ce qui peut se passer lorsque nous utilisons notre libre arbitre. Lorsque dans ces moments troublés de parenthèses où on est englué, il va falloir prendre des décisions et on n'est pas trop sûr de nous parce que il nous semble que Jésus bien n'est pas là, que le ciel est fermé et on se dit comment on peut gérer ça? La première pensée, c'est qu'on peut interpréter l'Écriture d'une manière surprenante. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on regarde le texte de Actes, Pierre va se lever, vous connaissez Pierre, hein, toujours ce caractère fougueux en tête, etc. Et puis là, il dit ceci, voilà, il va prendre 2 versets de 2 psaumes différents. On a le psaume 69, verset 26, je vous le lis. Que leur domaine devienne désert, que plus personne n'habite celui que tu frappes. Un psaume de David. Et puis il prend un deuxième psaume, le psaume 109, verset 8, que sa vie dure peu longtemps, et qu'un autre prenne sa charge. Encore un psaume de David. Et puis, Pierre va les associer tous les deux. Voilà. Et puis il va s'appuyer sur cette association pour dire maintenant il faut choisir quelqu'un qui va remplacer Judas. C'est étonnant, c'est sûr, j'ai pas de commentaire tranché par rapport à ce que Pierre fait ici, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que il va au-delà de toutes les règles connues d'interprétation. Hein, la première, vous la connaissez souvent, c'est de dire qu'un texte biblique sans son contexte, c'est un prétexte. Hein, je sors un verset de la Bible, et puis je l'applique comme je veux. Un texte sans son contexte, c'est un prétexte. Voilà, c'est un principe d'analyse biblique. Bien. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, que Pierre interprète, associe deux versets pour imposer le choix ensuite du futur remplaçant de Judas. Et puis deuxième élément, c'est que jamais, en tout cas dans l'Écriture, Jésus n'a demandé que Judas soit remplacé. C'est pas noté. Alors, ma question, c'est pas tellement est-ce que Pierre est inspiré ou pas à ce moment-là. Mon affirmation, c'est que malgré ce que pense Pierre de l'Écriture, de la manière dont il interprète, finalement, ça va pas empêcher le Saint-Esprit de venir 10 jours après. Ça va pas bloquer Dieu dans son plan. Et ça va pas mettre en péril le plan de Dieu. Je veux dire quoi ce matin? Il peut nous arriver, et moi le premier, que parfois on a des interprétations de la parole de Dieu, on va dire qui sont personnelles, qui sont de ma culture, de ma compréhension. Et on est tous ainsi. Dernièrement sur Soultz, une dame est venue. Elle commence à connaître la parole de Dieu, et puis bien sûr, elle fréquente l'Église catholique. Elle me posait quelques questions sur la Vierge Marie, notamment, bien sûr, sur la manière dont l'Église catholique, eh bien, la considère, où on peut prier Marie, où on peut l'invoquer, etc. Alors, je lui ai simplement dit ceci, écoutez, lisez le Nouveau Testament, et puis vous verrez si, dans le Nouveau Testament, il y a des passages qui nous demandent de prier Marie. Et puis, revenez me voir, et on en discutera. Et cette femme est en train de lire, et quand je la reverrai, je pense qu'elle me dira ce que je peux comprendre, bien sûr, il n'y a pas de tel passage, mais j'aurais pu lui dire, écoutez, c'est comme ça, mais lisez la parole de Dieu, et puis Dieu va vous éclairer, et puis vous verrez bien. Je crois que là aussi, et nous-mêmes, nous avons parfois des interprétations, je veux dire quoi? Je veux dire que ce matin, il y a des passages bibliques que je ne comprends pas, que j'interprète mal, j'ai pas toute la connaissance. D'ailleurs, Jésus dira un jour à ses disciples, écoutez, le Saint-Esprit viendra, il vous éclairera, parce qu'il y a des choses aujourd'hui que vous ne pouvez pas supporter, que vous ne pouvez pas comprendre. Et on a beau être une tête en théologie, etc., il y aura toujours des passages qui seront obscurs de la parole de Dieu. C'est pas un problème pour Dieu. Dieu saura en tenir compte. Il saura en tenir compte, soit en nous l'expliquant, soit en nous aidant à comprendre, soit en ne nous en ne tenant pas rigueur. Parce que Dieu connaît nos faiblesses. Dieu connaît exactement où j'en suis. Mais ce matin, oui, il m'arrive parfois d'avoir des interprétations qui sont personnelles, qui sont pas tellement, on va dire, même bibliques. Mais c'est pas ça qui va empêcher Dieu d'agir. Amen. C'est pas ça qui va empêcher Dieu d'agir dans nos cœurs. Alors Pierre, oui. Et puis la deuxième pensée, quand on est dans le flou artistique, eh bien, on peut aussi chercher la volonté de Dieu également d'une manière surprenante. C'est quand même aussi surprenant, hein, ce moment. Alors Pierre va énoncer des critères de remplacement pour Judas qui sont bien. Et puis après, ils font monter une prière, ok. Et puis là, finalement, il n'y en a que deux qui répondent aux critères. Il y en a deux. Alors que font-ils? Ils vont tirer au sort. Je ne sais pas s'ils font la courte paille ou autre chose, j'en sais rien. Hein. Une remarque, c'est que le tirage au sort était quand même dans l'ancienne alliance. C'était une pratique qui se faisait. Quand le pays de Canaan a été partagé, ça a été tiré au sort. Quand entre Saul et puis son fils Jonathan, on a voulu savoir qui avait mangé, parce que Saul avait donné un ordre de ne pas manger pendant le combat, etc., on a tiré au sort. Et quand on a voulu faire aussi un tour pour les Lévites, hein, pour le service, on a tiré au sort. Bon, voilà. Ça veut dire quoi? Le sort tomba sur Matthias. Bon, mathématiquement, il avait une chance sur deux. Hein. Donc, voilà. Mais on se rend compte que quand on manque des éléments tangibles, bien, là aussi, et je veux dire ça comme ça, on tâtonne pour chercher la volonté de Dieu. Et est-ce que Dieu va nous en vouloir? Est-ce que Dieu va dire, mais non, c'est pas comme ça qu'on me cherche, etc. Je pense, là aussi, que les disciples eh bien, vont attendre, et envers et contre tous, et Dieu va leur faire grâce. Là encore, c'est pas ça qui va bloquer l'effusion du Saint-Esprit. Ce matin, mon frère, ma sœur, cher ami, si vous cherchez la volonté de Dieu et que, bien, on tâtonne, on sait pas trop où on en est, et on fait des prières, J'ai entendu ça comme vous aussi, hein. J'ai cherché avant tout de Dieu, j'ai ouvert ma Bible, j'ai mis mon doigt dessus. Oui. Ok. Mais, au-delà. Alors, je ne vous dis pas de faire ça tous les jours maintenant, hein. Mais, excusez-moi, mais il y a des fois où, dans notre petite foi, dans le moment de détresse, dans le moment d'affolement, dans le moment de pleurs, eh bien, Dieu nous a répondu de cette manière. C'est peut-être choquant, c'est peut-être surprenant, mais Dieu connaît nos faiblesses, Dieu connaît nos errements. Et je conclus en disant, finalement, eh bien, ses disciples ont vécu ces 10 jours sans Jésus, ces 10 jours en attendant la promesse, ces 10 jours de test, eh bien, jamais Dieu ne les a abandonnés. Sa grâce bienveillante a été sur eux, même dans leurs errements, même dans ce qui nous semble nous inspirer ou pas, etc. Dieu ne les a pas abandonnés. Je reprendrai une parole de Jésus concernant Marie. À un moment donné, on a critiqué Marie, hein. Elle est en train de rompre un vase d'albâtre aux pieds de Jésus. Elle répand le parfum sur ses pieds, sur sa tête. Et là, les disciples qui sont très, très spirituels, on dit, mais quand même, Seigneur, on aurait pu prendre ce vase d'albâtre, le vendre et puis donner l'argent aux pauvres. C'est magnifique. Moi, si vous me dites quelque chose comme ça aujourd'hui, à la sortie du culte, écoute, frère, je vends ma maison puis je la donne aux... Je dis, vas-y, hein, vends ta maison. Bon, c'est très spirituel. C'est très spirituel. Je prends un gros morceau exprès. Hein. Je suis sûr que ça n'arrivera pas et que ça n'arrive pas non plus. Mais en tout cas, ici, qu'est-ce qu'a dit Jésus? Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? J'aime bien la suite. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a fait une bonne action. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a fait ce qu'elle a pu. Exactement. Elle a fait ce qu'elle a pu. Frères et sœurs, quand on est dans une parenthèse de 10 jours où on ne sait plus où on en est, on a l'impression d'être abandonné, le Seigneur voit et il nous rappelle cette parole. Eh bien, je sais que tu fais ce que tu peux. Et je ne t'en veux pas. Je ne t'en veux pas. Je sais ce que tu fais ce que tu peux. Et dans ces moments, après ces moments, eh bien, le Saint-Esprit est descendu et ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Il n'y en a pas un seul qui a été oublié. Il n'y en a pas un seul qui a été négligé. Il n'y en a pas un seul qui... J'aime bien, et je termine, au moment du tirage au sort, hein, l'Écriture dit que le sort est tombé sur Matthias. Il est tombé. Eh bien, moi, je préfère ce matin que le Saint-Esprit tombe sur nous. Amen. Et je ne méprise pas ce que Pierre a fait, hein, vous me comprenez bien, parce qu'on aurait peut-être fait la même chose dans cette détresse, etc. Mais ce matin, mon frère, ma sœur, ne te culpabilise pas non plus, toi qui vis comme une parenthèse, comme ses disciples, où on n'a plus de point de repère, où on ne sait plus trop où on en est, etc. Dieu sait que nous faisons ce que nous pouvons. Et dans ces moments où nous n'avons plus ces points de repère, eh bien, Dieu compatit, Dieu nous fait grâce, Dieu nous aide, Dieu nous éclaire, et il saura nous faire sortir de ces 10 jours, comme il l'a fait pour ses disciples. Amen. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Alors, on va prier quelques instants, ce matin, parce qu'il y a peut-être des bien-aimés au milieu de nous, eh bien, qui sont dans ce moment de 10 jours, eh bien, réjouissez-vous, hein. Dieu vous connaît. Dieu vous aime, Dieu ne vous a pas oublié, Dieu ne va pas vous abandonner, mais il va vous conduire comme il a conduit ses disciples jusqu'à ce qu'il y ait un renouveau dans votre cœur, de son esprit, de sa parole. Amen. Et puis ensuite, on pourra partager la Sainte Cène ensemble. Tu es un Dieu d'espérance, Seigneur. Tu es un Dieu rempli d'amour, de compassion. Tu es saint, c'est vrai. Mais dans cette sainteté, tu connais également nos défaillances, nos faiblesses, nos égarements, nos errements. Seigneur, il y a ces 10 jours pour ses disciples qui ont été 10 jours uniques comme une parenthèse, embourbés là aussi, sans savoir trop comment cela allait-il se passer. Mais nous te bénissons, Seigneur. Et nous te prions simplement que ce matin, Père, nous puissions là aussi bien continuer à te faire pleinement confiance. Oui, nous confessons ce matin que et avec les éléments que nous avons de ce que nous pouvons comprendre de ta parole, eh bien, nous faisons ce que nous pouvons. Et on n'est pas toujours très reluisant. Il n'y a pas toujours en nous, Seigneur, de belles déclarations spirituelles. Mais ce matin, nous faisons ce que nous pouvons, par amour pour toi, parce que nous t'aimons. Bien, imparfaitement, certes, mais nous t'aimons. Et je sais que ce matin, comme pour tes disciples, eh bien, tu es celui aussi qui va accomplir tes promesses. Tu es celui qui va te révéler. Et ta grâce bienveillante est sur chacun d'entre nous. Alors, fais-nous grâce, Seigneur, ce matin, au nom de Jésus-Christ, afin que, malgré ces moments où on ne sait pas trop où on en est, eh bien, nos cœurs, malgré tout, soient pleinement rassurés. Que ta paix nous soit accordée, Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus. Oui, nous voulons te rendre grâce. Aide-nous, Seigneur, à te faire confiance, à persévérer dans la prière, dans la communion fraternelle. Nous voulons d'un commun accord, Seigneur, ce matin, élever nos voix avec beaucoup de reconnaissance dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et si quelqu'un, ce matin, bien, avait besoin, là aussi, de sortir de cette période de 10 jours, hein, comme ses disciples en sont sortis par un baptême du Saint-Esprit, par une visitation du Saint-Esprit, par une visitation de Dieu unique et particulière dans l'histoire de l'Église, eh bien le Seigneur aussi ce matin veut agir de la même manière dans votre cœur, dans votre vie, vous donner de l'espérance, vous donner de l'avenir, vous donner de la sécurité, de la paix, vous accorder son pardon, peu importe. Le Seigneur ce matin bien veut nous faire sortir de nos 10 jours de parenthèse, d'incertitude, de mal-être, afin que nous puissions continuer à le servir. Amen. Et à vivre avec lui. Y aurait-il quelqu'un qui, en levant son bras ce matin, va dire, Seigneur, oui, bien, j'ai besoin. Oui, moi aussi, j'ai besoin. Oui, je t'ai vu, que le Seigneur te bénisse. Oui, oui, je vous ai vu devant. Y a-t-il encore quelqu'un d'autre? Oui, oui, je vous ai vu. Oui, je vous ai vu. Y a-t-il encore quelqu'un d'autre qui ce matin, en levant son bras, voudrait dire, Seigneur, bien, oui, moi, j'ai besoin aussi d'être rempli, d'être visité, comme ses disciples. Oui, que le Seigneur te bénisse. Amen. Oui, que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Seigneur, tu vois ces mains qui sont levées, elles sont levées vers toi, elles sont levées vers le ciel, elles sont levées vers Jésus-Christ qui a toute autorité pour transformer, pour pardonner, pour guérir, pour libérer et affranchir nos cœurs. Au nom de Jésus, bénis ses frères et sœurs ce matin. Ils ont confessé, oui, qu'ils étaient comme ses disciples, mais nous connaissons le même Dieu. Nous connaissons la personne désormais du Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Alors que ta bonne main soit sur ces bien-aimés, au nom de Jésus-Christ, que ta grâce les accompagne et qu'ils puissent eux aussi réaliser, comprendre toute la perfection de ta parole. Donne-leur, Seigneur, ce dont ils ont besoin pour sortir de ces moments, au nom de Jésus. Et ensemble, nous aurons toujours soin de te donner toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Que cette parenthèse, Seigneur, serve et les conduise dans une véritable vie renouvelée dans la foi au Fils de Dieu. Amen. 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 Amen.